Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Il est 17h30 en temps universel, 13h30 dans la capitale américaine. Bienvenue à l'écoute, Jacques Aristide pour vous présenter Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, à la une de l'actualité en ce vendredi 2 août 2019. Au Bénin, l'opposant Lionel Zinsou interdit d'élection pour 5 ans. Il est condamné pour usage de faux. Au Soudan, les généraux annoncent l'arrestation de plusieurs membres des forces de soutien rapide pour la mort de jeunes manifestants. En Algérie, les manifestants appellent pour la première fois à la désobéissance civile après le rejet de leurs revendications par l'armée. Les États-Unis se retirent du traité sur les armes nucléaires à portée intermédiaire et accusent la Russie de ne pas respecter les termes de l'accord. Ne manquez pas non plus vos rubriques habituelles, la Minute Éco et les sports dans 10 minutes. Un mot d'abord sur l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. 7 proches de l'orpailleur décédé mercredi dernier à Goma ont été ramenés dans cette ville et placés sous surveillance d'après l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit d'une femme et de 6 enfants qui s'étaient rendus dans la province voisine du Sud Kivu. Ils ont été mis en quarantaine et vaccinés contre Ebola avec 40 autres membres de leur famille. Davantage tout à l'heure dans la partie magazine. Au Bénin, l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou, arrivé second à la dernière présidentielle, a été condamné aujourd'hui à 5 ans d'inéligibilité et 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour usage de faux documents. De Cotonou, le compte-rendu de Ginette Fleur Adandé.
En plus des 5 ans d'inéligibilité, l'ex-premier ministre béninois est candidat à la présidentielle de 2016 et écope de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 50 millions de francs CFA. Le juge en charge du dossier à l'audience ouverte vendredi matin a déclaré recevable l'action du ministère public contre Lionel Zinsou et le retient dans les liens de la prévention d'usage de fausses attestations ou de certificats falsifiés de dépassement de dépenses de campagne. À peine le verdict rendu public que les voix s'élèvent à travers le pays pour fustiger cette volonté du pouvoir à bâillonner toutes les voix de l'opposition. Albert Evoidre, ancien médiateur de la République, pense que rien de ce qui se passe aujourd'hui ne respecte l'esprit de la conférence nationale de février 90. Les hommes passeront, mais le Bénin restera, a-t-il précisé, regrettant que les bras capables de construire le pays soient exilés, contraints à ne plus revenir chez eux. Lionel Zinsou, qui vit en France, dispose de 15 jours pour faire appel. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
En Guinée, l'opposant Fayam Limounou a été inculpé et écroué à Conakry pour diffamation à l'encontre du ministre de la Justice, Mohamed Lamine Fofana. Le chef du bloc libéral a reconnu avoir faussement accusé le ministre d'avoir fait partie de rebelles qui avaient attaqué le pays il y a une vingtaine d'années et d'avoir été leur porte-parole. Au Sénégal, mobilisation pour la libération d'un activiste en détention depuis plus de 2 semaines. Des organisations de la société civile, écrivains et universitaire demande que Guy Marius Sagna, un militant qualifié d'antisystème, soit remis en liberté. Il est détenu depuis le 16 juillet dernier pour diffusion de fausses alertes au terrorisme. Une pétition en sa faveur a été rendue publique aujourd'hui avec la signature de 26 personnalités, dont les auteurs sénégalais Boubacar Boris Diop et l'acteur américain Danny Glover. En Algérie, les manifestants appellent pour la première fois à la désobéissance civile malgré un fort déploiement policier dans la capitale aujourd'hui. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La désobéissance civile arrive, Gaïd dégage, scande désormais les manifestants qui ont défilé massivement à Alger, quadrillés par des milliers de policiers. Une dizaine de personnes ont été arrêtées. Pas de dialogue avec le gang au pouvoir, crient les protestataires, rejetant le processus de discussion proposé par le président par intérim Abdelkader Ben Salah. Face au mouvement Hirak qui exige avant tout scrutin le départ des anciens fidèles de l'ancien régime, le pouvoir a proposé un dialogue devant définir les modalités de la présidentielle. Une instance nationale de dialogue a été mise sur pied, mais plusieurs personnalités du Hirak ont refusé d'y participer, l'accusant de faire le jeu du pouvoir. Cette instance a aggravé la défiance à son égard en renonçant hier aux mesures d'apaisement qu'elle avait elle-même exigées, avant tout dialogue dont l'allègement du dispositif policier, la libération des manifestants arrêtés et l'arrêt de la répression des marches. Ces mesures ont été rejetées par le général Gaïd Salah, chef d'état-major général de l'armée. La présidentielle convoquée le 4 juillet a été annulée faute de candidats, conduisant au maintien de M. Ben Salah à la tête de l'État, malgré l'expiration du délai d'intérim prévu par la Constitution.
En Tunisie, début du dépôt des candidatures pour la présidentielle du 15 septembre. Un scrutin anticipé pour élire un successeur au chef de l'État décédé, Béji Caïd Essebsi. Ce vendredi, au moins 9 prétendants ont déposé leur dossier, dont l'homme d'affaires et magnat des médias, Nabil Karoui, récemment inculpé pour blanchiment d'argent. Il se présente comme le candidat des plus démunis. Il est considéré comme un adversaire de taille pour le Premier ministre Youssef Chahed, qui n'a pas encore annoncé sa candidature. Bien que son parti a déjà indiqué qu'il sera candidat. Les aspirants à la présidence ont jusqu'au 9 août pour déposer leur dossier. Au Soudan, les militaires au pouvoir ont annoncé l'arrestation de 9 membres des forces de soutien rapide pour la mort de jeunes manifestants tués par balles. Claire Morin-Gibourg.
Une enquête a été ouverte et 7 membres des forces paramilitaires ont été limogés et remis à la justice civile pour être jugés, a déclaré aujourd'hui le général Shamseddine Kabachi. 2 membres de cette force redoutée avaient déjà été arrêtés hier. Cette annonce a été faite alors que 4 manifestants ont été tués jeudi à Omdurman, ville jumelle de Khartoum. Dirigée par Mohamed Hamdan Daglo, numéro 2 du Conseil militaire, les forces de soutien rapide ont été un pilier du régime du président Omar el-Béchir avant de contribuer à sa chute. La mort de manifestants à Al-Obeid avait entraîné la suspension de négociations entre la contestation et les militaires sur le partage du pouvoir. Les discussions ont repris jeudi soir pour finaliser l'accord de transition et les médiateurs ont précisé aujourd'hui qu'elles se poursuivront dans la soirée.
En Afrique du Sud, le Parlement et le parti au pouvoir, l'ANC, ont condamné aujourd'hui des attaques contre des policiers commises par des vendeurs de rue clandestins. Ils les qualifient d'agression contre l'État. Les forces de l'ordre ont été attaquées à coups de pierre à Johannesburg hier, alors qu'elles intervenaient pour confisquer des produits de contrefaçon dans le centre-ville, où les travailleurs venant d'autres pays africains sont nombreux.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le traité sur les armes nucléaires à portée intermédiaire entre les États-Unis et la Russie est mort. Les deux pays ont officiellement mis fin à ce traité vieux de plus de 30 ans. Abdourahman Dia pour les détails.
Le retrait des États-Unis, conformément à l'article 15 du traité, prend effet aujourd'hui car la Russie n'a pas renoué avec son respect total et vérifié, a déclaré dans un communiqué le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Quelques minutes plus tôt, le ministère russe des Affaires étrangères avait pris acte de la fin de cet accord à l'initiative de Washington, proposant de nouveau en parallèle un moratoire sur le déploiement d'armes de portée intermédiaire. Washington et Moscou s'accusent mutuellement d'être responsables de la mort de ce texte conclu pendant la guerre froide. Après 6 mois de dialogue de sourds et d'accusations réciproques de violations, les deux puissances ont laissé expirer l'ultimatum lancé par l'administration de Donald Trump en février. Washington accuse Moscou de fabriquer des missiles non conformes au traité. Cette suspension avait ouvert une période de transition de 6 mois qui se termine ce vendredi.
La Chine promet des représailles si le président américain Donald Trump met à exécution sa menace d'imposer dès le 1er septembre prochain de nouvelles surtaxes sur les produits chinois importés aux États-Unis. Ces droits de douane supplémentaires de 10% sur 300 milliards de dollars d'importation de produits made in China pourraient fabriquer des marchandises comme des sèches-cheveux, des chaussures, des téléviseurs à écran plat ou encore des jouets. Pékin n'a pas précisé comment il comptait répliquer. Nouveau proposeront une analyse dans la partie magazine. Arrêt des frappes sur la région d'Idleb en Syrie après l'annonce d'une trêve. Le régime de Bachar al-Assad et son allié russe ont cessé leur raid aujourd'hui sur des zones dominées par les djihadistes. Après 3 mois de bombardements quasi quotidiens, près de 790 civils ont été tués d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le régime de Bachar al-Assad a conditionné la trêve à l'application d'un accord conclu en septembre novembre de l'année dernière entre la Russie et la Turquie pour créer une zone démilitarisée dans la région d'Idleb. Les djihadistes ont refusé de se retirer des localités appelées à faire partie de cette zone tampon. Voilà donc pour les nouvelles qui dominent l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde. Sans plus tarder, en condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Nanik Talani.
Le Mozambique poursuit pour fraude le PDG de Privinvest, une entreprise de construction navale au centre du scandale de la dette de 2 milliards de dollars. En 2013 et 2014, ce pays et Privinvest ont signé des accords pour un projet couvrant la pêche au thon, les chantiers navals et la sécurité maritime. Des centaines de millions de dollars ont disparu et les navires fournis rouillent dans les ports. Le PDG de Privinvest est celui qui avait proposé et aidé à trouver un financement pour ce projet qui a entraîné la dette ayant incité le FMI et d'autres donateurs à suspendre toute aide au Mozambique. L'Afrique du Sud peut à nouveau exporter sa viande de bœuf vers la Chine. Les exportations de cette viande ont été suspendues en raison de l'épidémie de fièvre aphteuse qui s'était déclenchée en janvier dernier dans la province du Limpopo. L'an dernier, l'Afrique du Sud a exporté environ 10 000 tonnes de viande de bœuf vers la Chine, générant 139 millions de dollars. Terminons cette minute éco par le Togo qui va mobiliser le 9 août prochain 20 milliards de francs CFA par le biais de l'émission d'obligations assimilables du Trésor public sur le marché régional. La valeur nominale unitaire des titres est fixée à 10 000 francs CFA. Ceux-ci ont une maturité de 36 mois et sont assortis d'un taux d'intérêt de 6,25% long dès la première année. Ce sera la troisième fois que le Togo sollicite les investisseurs de l'IMOA cette année après les demandes du 12 et 26 juillet.
Et maintenant, pour un tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
La succession de Paul Put à la tête de la sélection guinéenne, le Sili National, est ouverte.
Oui Jacques, la Fédération guinéenne de football a lancé un appel à candidature dont la clôture est fixée au 12 août, éliminant en huitième de finale de la CAN par le futur vainqueur l'Algérie. La Guinée n'a pas laissé une seconde chance au technicien belge pour le remplacer. Un communiqué de la FEGIFOOT donne l'opportunité aux techniciens locaux et étrangers. Les responsables du football guinéen disent rechercher un sélectionneur qui a une grande expérience africaine, un bon palmarès en tant qu'entraîneur et une forte personnalité pour imposer une discipline au sein de l'équipe. L'objectif est de qualifier la Guinée pour la CAN 2021 et la Coupe du Monde 2022.
Stuart Baxter quitte les Bafana Bafana.
J'ai le sentiment de ne pas pouvoir continuer à travailler avec professionnalisme et passion comme j'ai pu le faire avant, a expliqué Baxter. Arrivé sur le banc des Bafana Bafana en 2017, il n'a pas réussi à qualifier l'Afrique du Sud pour la Coupe du Monde 2018 en Russie et malgré l'élimination de l'hôte égyptien en huitième de finale, les supporters n'ont pas digéré les résultats de la CAN terminée en quart de finale face au Nigeria. Après une seule victoire contre deux défaites, Baxter est le neuvième sélectionné de la CAN 2019, a quitté son poste depuis le sacre algérien.
Stéphanie Frappard a fait tomber une nouvelle barrière dans l'arbitrage.
Oui, Jacques, à 35 ans, la Française va devenir la première femme arbitre d'une rencontre masculine majeure. Le 14 août, lors de la finale de la Supercoupe d'Europe entre Liverpool et Chelsea à Istanbul, première femme à être promue en Ligue 1 après 5 saisons en deuxième division, Stéphanie Frappard a déjà dirigé la finale du Mondial 2019 féminin entre les États-Unis et les Pays-Bas. Elle sera assistée de deux autres femmes, sa compatriote Manuela Nicolosi et l'Irlandaise Michelle O'Neill.
Et pour terminer, Yacouba, Dani Alves signe à Sao Paulo.
Et oui, l'arrière droit brésilien, 36 ans, s'est engagé avec Sao Paulo FC jusqu'en décembre 2022. Dani Alves était sans club depuis la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain en juin. Il avait lui-même annoncé son départ du club français où il côtoyait son ami et compatriote Neymar depuis deux ans. Le vétéran a été élu meilleur joueur de la Copa América remporté début juillet avec la Seleção à domicile. Il s'agit du 40e titre glané par le latéral qui devient du coup le joueur le plus victorieux de l'histoire du football. Selon son nouveau club, Alves a connu une carrière à succès dans trois championnats en Europe avec des passages au FC Séville, au FC Barcelone, à la Juventus Turin et au PSG. Sao Paulo est actuellement 5e au classement du championnat brésilien après 12 journées.
Yacouba Ouédraogo, merci bien. Bon week-end à lundi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci d'être branché sur VOA Afrique à l'écoute du Monde aujourd'hui. Jacques Aristide, toujours avec vous. Et maintenant, notre tranche magazine. Retour en République démocratique du Congo qui connaît sa pire épidémie d'Ebola depuis un an, tant en termes de mortalité que de durée. Il s'agit également de la deuxième plus importante dans le monde. Les provinces congolaises du Nord Kivu et d'Ituri sont en alerte. Dans la grande ville de Goma, où un orpailleur est décédé d'Ebola, l'une de ses filles et sa femme contaminées par le virus ont été internées au centre de traitement d'Ebola de l'hôpital de cette ville de 2 millions d'habitants, d'après les autorités congolaises. Eddie Sango a joint le docteur Jean-Jacques Muyembe en charge de la lutte contre Ebola.
Oui, dans les deux cas positifs, dont la mère et l'enfant sont hospitalisés ici au centre de traitement. Nous avons visité ce matin. Leur état de santé s'améliore très bien. Ils sont sous traitement avec les antiviraux. Donc là, il n'y a pas de problème. Les contacts qui se seraient évadés vers les travaux ont été retrouvés et remis ici à Goma. Et ils ont été vaccinés. Ça a été un succès.
S'agit-il de membres de la famille de l'orpailleur décédé mercredi?
C'est toujours dans la famille de l'orpailleur.
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres contacts?
Mais si, il y a d'autres. Vous comprenez bien que nos familles africaines, c'est très élastique. Et donc, il faut détecter le plus possible tous les contacts de cette famille. D'autant plus que cet orpailleur avait passé plus de 10 jours en famille en revenant de l'Ituri. Il a eu le temps, n'est-ce pas, d'entrer en contact avec les différents membres de la famille et d'infecter certains d'entre eux. Donc, c'est un grand effort qu'on doit faire pour retrouver tous les contacts. On fait la liste de contacts et puis on les vaccine.
Et ceux qui allaient à Bukavu là-bas, c'était qui exactement? Ces enfants, n'ont-ils pas eu de contact avec d'autres?
Il y avait une sœur, on les a retrouvés tous et tous sont revenus ici à Goma.
Nous apprenons aussi que vous avez publié les plans révisés d'opération pour mettre fin à cette épidémie. En quoi consiste-t-il?
Nous avons simplement adapté ce plan qui a été adopté par tous les partenaires. Donc, de l'adapter à l'esprit actuel, de faire donc de cette riposte une riposte multisectorielle. Parce que les problèmes, comme vous savez, ne sont pas seulement les problèmes de santé publique, mais également ça concerne surtout les autres aspects de sécurité, etc. Donc, nous devons absolument tenir compte de cela. En outre, nous voulons que la riposte soit vraiment ancrée dans le système, n'est-ce pas, de santé. C'est-à-dire, les DPS et les médecins chefs de zone, tout ça, doivent participer à la riposte au lieu d'être des simples spectateurs.
Il s'est posé un problème d'appropriation de ces combats par la population avec tout ce qui avait circulé dans la société. Qu'est-ce qui va changer dans ce plan-là?
Pour nous, tout doit être basé sur la population. Le plus grand effort, c'est d'engager le plus possible les locaux qui vont assurer la vaccination et la surveillance, parce que les locaux, ils parlent la langue locale, donc ils peuvent bien s'infiltrer dans la population et transmettre le message.
Le docteur Jean-Jacques Muyembe, en charge de la lutte contre Ebola en RD Congo, il était en ligne de Goma.
Retrouvez VOA Afrique sur Top Congo sur 88.4 FM à Kinshasa.
Boko Haram sévit au Nigeria depuis 10 ans, mais pour le gouvernement, le groupe djihadiste a été vaincu. Il reconnaît toutefois le danger croissant représenté par les djihadistes internationaux. Le président nigérian, Muhammadu Buhari, envisage une nouvelle approche pour les combattre. Elle inclut l'utilisation des drones et des caméras de surveillance. Un nouveau plan qui provoque des réactions mitigées dans le pays, comme nous allons l'entendre dans le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Tout le monde est d'accord qu'il faut une nouvelle approche contre l'insécurité grandissante dans le pays, mais beaucoup souhaitent voir le gouvernement avoir des initiatives plus efficaces. Samsudin Ousmane travaille pour le Centre pour la démocratie et le développement, CDD.
Personally, I would have expected a more holistic Personnellement, je m'attendais à une intervention plus efficace du gouvernement. Je sais que c'est réellement un des moyens d'accorder un privilège aux gouverneurs des États d'exercer les pouvoirs en tant que chef de sécurité de leurs différents États. Mais il y a beaucoup plus que leur octroyer des licences. Il y a lieu d'avoir des consultations autour du projet.
Les gouverneurs des 36 États au Nigeria ont depuis longtemps réclamé l'octroi des licences leur permettant de surveiller les activités des criminels impliqués dans les enlèvements. Le président Buhari a finalement décidé de donner des instructions aux autorités fédérales compétentes pour approuver rapidement l'octroi des licences au gouvernement des États demandant l'utilisation des drones pour surveiller les forêts et autres repères criminels. Judith Hamza s'inquiète de l'engagement du président.
Ce que je voudrais dire est quel est leur engagement. L'engagement, à mon sens, c'est la consistance et la disponibilité pour trouver les moyens nécessaires pour faire de ce projet une réalité. Il ne suffit pas de le faire une seule fois, dépenser des fonds et par la suite ne rien voir de concret se réaliser. Ou peut-être ils vont le faire une seule fois pour atteindre leur cible et après abandonner et ça sera tout.
Le président a également l'intention d'installer des caméras de surveillance sur les autoroutes et à des emplacements stratégiques pour mieux surveiller toutes les activités suspectes. Mais Sadiq Garbachehu, colonel de l'armée de l'air à la retraite, estime que parler de la technologie dans le domaine de la défense est beaucoup plus compliqué.
Si tu dis des caméras de surveillance, ça peut faciliter les choses. Mais ce n'est pas le caméra de surveillance qui vient attraper le bandit. Quand tu parles aussi de drones, il y a des drones de différentes catégories. Donc il faut savoir c'est quelle sorte de drone dont le président parle. Le caméra surveillance doit être connecté avec un moyen de réaction.
Le Nigeria est confronté à un problème de sécurité énorme. En plus de la crise dans le nord-est, le banditisme et des enlèvements menacent la paix dans le pays. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Il y a un an, le 1er août 2018, des soldats zimbabwéens ont ouvert le feu sur des manifestants qui protestaient contre la publication tardive des résultats des élections. Une douzaine de personnes ont été tuées et des dizaines blessées. Certains parmi les survivants n'ont pas pu reprendre leurs activités normales. Le reportage de Columbus Mavunga à Harare, récit Claire Morin-Gibourg.
Âgé d'une trentaine d'années, Lovde Munezi a été blessé dans la manifestation du 1er août 2018. Depuis la fusillade, il a du mal à marcher et il ne peut plus travailler en tant que professeur de collège. Lovde Munezi.
Jusqu'à présent, je n'ai reçu aucune aide médicale du gouvernement pour soigner mes blessures.
Les médecins ont déclaré qu'il lui faudrait au moins 15 000 dollars pour aller en Afrique du Sud ou en Inde pour subir une opération pour retirer la balle de son corps sans endommager ses nerfs. Une telle intervention chirurgicale n'est pas réalisable au Zimbabwe. Le principal parti d'opposition demande que le gouvernement indemnise et couvre les frais médicaux de ceux qui ont été blessés, comme Munezi. C'était aussi une recommandation d'une commission mise sur pied par le gouvernement. Pour l'opposition, si le gouvernement ne le fait pas, cela prouve qu'Harare ne prend pas la question des droits de l'homme au sérieux. Daniel Molokele est le porte-parole du mouvement pour un changement démocratique.
Obviously, the families, they need compensation.
De toute évidence, les familles ont besoin d'être indemnisées et cela doit être fait publiquement. Nous devons prendre en compte leur bien-être et les répercussions sociales que cela a pu avoir. Mais nous avons surtout besoin que l'État garantisse la sécurité et s'assure de mettre fin au cycle de violence où la police et l'armée sont fortement impliquées dans le discours politique de ce pays.
Le ministre zimbabwéen de la Justice, Ziyombi Ziyombi, a déclaré hier jeudi que les énormes difficultés économiques de son pays empêchaient le gouvernement d'honorer ses engagements, comme le règlement des factures médicales des victimes comme Love Day Munezi. À ce jour, l'enquête sur la fusillade du 1er août 2018 est toujours au point mort et aucun membre des forces de sécurité n'a eu à rendre de compte pour violence contre d'autres Zimbabwéens.
Bonsoir, c'est Abdourahmane Dia. Je vous donne rendez-vous à 19h temps universel dans l'Amérique et vous, qu'on va consacrer au Yali 2019. Plus de 700 jeunes Africains viennent de terminer un séjour de 6 semaines dans différentes universités américaines dans le cadre du programme Yali, une initiative lancée en 2014 par l'ancien président Barack Obama. L'objectif est d'aider de jeunes leaders africains à renforcer leurs capacités dans les domaines des affaires et de l'entrepreneuriat, du management public et du leadership. Comment tirer profit de ce genre de programme? Laissez-nous vos numéros et commentaires ou appelez en direct au 001 202 205 26 33.
La Chine ne veut pas d'une guerre commerciale, mais n'a pas peur d'en faire une. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le gouvernement chinois qui affirme qu'il devra prendre des mesures de rétorsion si les États-Unis veulent à tout prix imposer des droits de douane supplémentaires sur les produits chinois. Le président américain Donald Trump veut imposer à compter du 1er septembre prochain des droits de douane additionnels de 10% sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises. Ekia Badou s'est entretenu avec Jean-François Seznec, politologue spécialisé en commerce et finances à l'université de Georgetown.
Bien, écoutez, le président américain essaye certainement d'accélérer la procédure parce qu'il pense que les Chinois veulent attendre que lui parte de la Maison Blanche pour pouvoir négocier quelque chose d'un peu plus favorable. Mais lui le sait, bien sûr, et il essaye de mettre une pression maximale sur la Chine pour que la Chine accepte de diminuer la balance commerciale qui est effectivement extrêmement déficitaire pour les États-Unis. Donc il y a beaucoup de travail à faire. La raison pour laquelle il augmente ses droits de douane sur les produits chinois, c'est pour forcer la main des Chinois.
Alors on voit que les cours boursiers sont fluctuants avec cette actualité. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Est-ce que vous pensez que ça va être effectif tout cela?
Honnêtement, non, je ne pense pas. Je pense que la Chine, si on voit ce qu'ils ont fait dans le passé, ne vont pas accepter de se rendre, si vous voulez, au dictat américain. C'est donc une situation assez dangereuse. Je ne sais pas comment on peut se sortir de ça. Je pense que faire de la diplomatie par Twitter, comme on le fait maintenant, c'est très dangereux parce que ça empêche les Chinois de sauver la face, si vous voulez. Les leaders chinois ne peuvent pas vraiment accepter tout ce que demande le président pour le moment. Donc, à mon avis, ils vont se battre et ils vont trouver d'autres moyens de faire une contre-pression sur les États-Unis. À long terme, les Chinois perdront plus que les États-Unis parce que la balance commerciale est quand même en déficit de 500 milliards de dollars par an. Mais les Chinois vont vouloir quand même montrer que c'est un pays très important, le deuxième pays mondial au point de vue force et au point de vue économie. Et ça m'étonnerait fort qu'il décide de donner à Donald Trump ce que le président veut.
Est-ce que vous pensez que des intermédiaires peuvent rétablir la situation si les deux chefs d'État ne s'entendent pas forcément sur une solution pour pacifier cette guerre commerciale?
Non, honnêtement, je ne pense pas. Il faut absolument que l'une des parties décide d'accepter ce qui est demandé, donc que la Chine accepte ce que les États-Unis demandent. Mais la façon de procéder par les États-Unis en ce moment est très dangereuse parce que ça presque empêche les Chinois de faire un compromis parce que ça voudrait dire qu'ils vont contre l'intérêt national.
On écoutait le professeur Jean-François Seznec de la McDonough School of Business jointe à Washington. Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. À la console, on avait l'aide de Bill Andrade. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous encore une fois ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end sur VOA Afrique. À très bientôt. Take care.
Vous
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA